France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les oracles étaient présents un peu partout. On avait besoin d'eux, de leurs avis, avant toute grande décision, et souvent aussi pour des affaires domestiques quotidiennes. Les dieux étaient sollicités tout le temps. Ils étaient censés parler par la bouche des devins, leur porte-parole. C'est bien le sens du mot prophète, celui ou celle qui porte en avant la parole d'une divinité. Toute armée emmenait des devins avec soi, à leur demander si c'est le bon jour, le bon moment pour attaquer. Et si l'avis des devins était négatif, ils se faisaient insulter, mais ils étaient en général obéis.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Cléo Carastro, helléniste.
Le devin est une figure centrale pour comprendre la façon dont on conçoit le divin en Grèce ancienne. Le devin n'est pas seulement un passeur, n'est pas seulement un médiateur, il est quelqu'un qui permet d'ordonner le monde aussi. Je vous rappelle que lorsque une cité comme Athènes doit prendre une décision cruciale, s'y abandonner la ville ou pas, face à l'invasion perse, on va consulter l'oracle de Delphes. Et c'est donc on va écouter la réponse de la Pythie qui doit interpréter la volonté divine. Et donc les devins sont des figures centrales pour organiser la vie en société.
On nous raconte qu'un très grand guerrier appelé Tidée bouillonnait d'impatience devant la ville de Thèbes, qu'il voulait à tout prix attaquer. Mais un devin lui indiquait que les entrailles des bêtes sacrifiées pour interroger les dieux portaient des signes défavorables. Il fallait attendre. Le guerrier est devenu fou furieux.
Tidée, devant la porte de Proïtos, gronde déjà. Le devin lui interdit de franchir la rivière Isménos, car les victimes sacrifiées ne se montrent pas bonnes. Et Tidée, en fureur et avide de se battre, crie avec des sifflements de serpents en plein midi. Il frappe d'insultes le savant devin Amphiaraos, chien soumis qui pactise avec la mort et le combat par nullité d'âme. En hurlant ses cris de guerre, il secoue trois panaches d'ombre, chevelure de son casque. Sous son bouclier, des cloches forgées dans le bronze sonnent l'effroi.
Beaucoup de bruit pour rien. Dès que l'assaut sera donné, ce Tidée sera vaincu et réduit au silence. Les devins interprétaient plusieurs sortes de signes, ou bien des signes qu'ils provoquaient ou sollicitaient eux-mêmes, en examinant les entrailles d'animaux sacrifiés à l'occasion, en déchiffrant la forme de flammes, en tirant au sort, ou bien ils déchiffraient des signes inattendus que les dieux envoyaient, notamment sous la forme d'oiseaux volant dans le ciel. Lire ces signes, les comprendre, demander une science très élaborée, une connaissance précise des oiseaux, de leurs mouvements, de leurs habitudes. Le signe apparaissait alors soudainement, de manière inattendue, mais il fallait l'interpréter tout de suite, et dans le bon sens. Un aigle tient un serpent dans ses serres et vole vers son nid, pour donner la proie à ses petits. Mais le serpent n'est pas mort, il se rebiffe, se redresse et mord l'aigle au cou. L'aigle le lâche. Ce qui pouvait passer pour un signe de victoire, si on s'identifiait à l'aigle, oiseau de Zeus, comme cela paraît normal, devient un signe de défaite. Que tirer de cette image? Une autre fois, c'est un serpent au dos rouge sang qui sort de terre devant l'armée grecque, prête à s'embarquer pour attaquer Troie. Le serpent se glisse sur un platane et dévore des passereaux qui avaient là leur nid. 8 oisillons, et en plus il attrape leur mère, qui voltait en criant autour de l'arbre. Puis l'aigle redescend et devient invisible, transformé en pierre, dit-on. Mais cela, on n'est pas obligé de le croire. Il fallait toute l'intelligence d'un devin formé par Apollon pour deviner que cette scène prédisait la durée de la guerre de Troie, 9 années à attendre avant la victoire, comme il y eut 9 passereaux mangés.
J'ai parlé à 2 fermiers aujourd'hui. Ils ont aperçu un aigle qui volait, un reptile, coincé dans ses serres. Cela est un signe du dieu Apollon. Nous remporterons une grande victoire demain.
Des présages. Vous établissez une stratégie en vous basant sur des présages.
Sois plus respectueux, Hector. Lorsqu'Archeptolémus nous a prédit 4 années de sécheresse, nous avons pensé construire des puits plus profonds, et la sécheresse venue, nous avions de quoi boire. Un grand prêtre est un serviteur des dieux.
La connaissance des oiseaux, du sens de leurs mouvements, la connaissance de tous les signes qui annoncent l'avenir, passait pour être un savoir sérieux, rationnel, indispensable à la vie des sociétés et des individus. On ne disait pas que c'était de la superstition ou de la naïveté. La divination, si elle était savante, rigoureuse, était l'une des techniques requises et éprouvées pour rendre plus sûres, plus pertinentes et rationnelles les actions que l'on voulait entreprendre. L'intelligence du vol des oiseaux et des différents signes qui disent quelque chose du futur a été l'un des cadeaux offerts à l'humanité par Prométhée, le dieu technicien, le sauveur, qui a permis aux hommes de survivre en leur faisant le don du feu et de toutes les techniques nécessaires. Avant ce don, les hommes étaient incapables de comprendre quoi que ce soit au monde qui les entoure, incapables d'agir. Ils étaient englués dans leur imbécilité première. Ils avaient des yeux et ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles et n'entendaient rien. Le don du feu, cette force de transformation infatigable, va leur ouvrir l'accès au monde. L'art subtil des devins garantit l'un de ces accès, selon Prométhée, l'inventeur de toutes les techniques, tel que le représente Eschyle dans sa tragédie « Prométhée enchaîné ». Avec le feu, Prométhée a apporté aux hommes l'art de construire des maisons, de comprendre le mouvement des astres, de cultiver, de naviguer. Il leur a appris les nombres, les lettres, la médecine et de manière très rigoureuse les différentes formes de la divination. Savoir calculer, savoir écrire, savoir analyser le cours des astres, savoir guérir et deviner avec rigueur l'avenir relève de la même rationalité technique. Ce sont des arts qui, chacun à sa manière, mais ensemble, libèrent l'être humain de toute dépendance aveugle vis-à-vis des puissances qui le cernent. On ne peut pas échapper à ces puissances qui sont plus fortes que nous, mais on peut apprendre à y mettre de l'ordre en distinguant nettement les choses, leurs différences, en traçant des limites entre ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Prométhée, chez Eschyle, insiste longuement sur la nécessité de savoir faire des distinctions pour survivre.
Les 1001 procédés de la divination, je les ai mis en système. Le premier, j'ai distingué dans les rêves ce qui doit se produire en plein jour. J'ai fait comprendre aux hommes les noms indistincts et les symboles que l'on croise sur sa route. J'ai différencié rigoureusement les vols des oiseaux à la griffe crochue, la catégorie favorable et celle qu'on ne nomme pas. J'ai classé les comportements des diverses espèces, une par une, et leurs relations, leur haine, attirance et conjonction. J'ai expliqué les viscères et leur brillance, quelle couleur la bile doit leur donner pour le plaisir des dieux, et les formes nombreuses de la beauté du foie. En cachant dans la graisse les membres et toutes les chines des bêtes, en les passant au feu, j'ai guidé les hommes sur le chemin d'un art d'abord privé de repères, et aux signes qui se lèvent dans les flammes, j'ai rendu leur regard. Un voile les recouvrait. Voilà ce que j'ai fait.
Prométhée a enseigné aux hommes tout ce qui relève du visible. Construire des murs pour se protéger, se nourrir, connaître les astres, la mer, les chiffres et les lettres. Il a enseigné aussi tout ce qui donne accès à l'invisible. La médecine pour atteindre la santé, la divination pour connaître le futur. Il finit sa liste par l'art de découvrir les métaux précieux cachés sous la terre. L'art des devins n'est pour lui pas irrationnel, archaïque ou dépassé. Au contraire, il est aussi utile que le calcul ou l'écriture. Le soin que les devins mettent à distinguer les catégories de signes permet de voir clair dans ce qui est encore indistinct, confus, et de définir l'avenir. Le contraste avec notre société est énorme. Il y a bien chez nous des devins, mais ce sont des marginaux peu légitimes. L'astrologie est populaire, mais elle ne passe pas pour être une discipline vraiment sérieuse. Et surtout, il n'y a pas chez nous de grands centres religieux officiels où on fabrique à la demande des oracles par milliers comme Delphes, Dodone et d'autres sanctuaires grecs très prestigieux. C'est peut-être au départ une question de religion. On n'imagine pas le Vatican se transformer en grand distributeur d'oracles, avec des prêtresses en délire au fond de la basilique Saint-Pierre. On n'imagine pas non plus cela pour les grandes mosquées et synagogues dans le monde. C'est peut-être lié à une conception du temps. Pour les trois grandes religions qui ne reconnaissent qu'un seul Dieu, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le temps est orienté, il a un sens. Une révélation divine a enseigné que le temps qui passe, le temps de l'histoire, est censé nous conduire vers un terme, vers les temps derniers, où la perfection divine se montrera, deviendra évidente, vécue, où elle cessera d'être coupée du monde toujours imparfait des humains. Les prophètes annoncent cette fin des temps qui ouvrira, au moins pour ceux qui auront la chance d'être sauvés, sur un bonheur éternel. Tout événement vécu dans le temps est lié à cette espérance, à la confiance placée dans la promesse divine d'un futur enfin radieux et totale liberté laissée aux humains pour agir en conséquence. Il y a toujours des devins, mais ils ne peuvent être au cœur des formes officielles de la religion.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle de l'énorme besoin de divination en Grèce ancienne.
On ira tous au paradis, mais moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
La religion grecque est très différente. Le temps n'y est pas orienté. L'histoire n'a pas un sens fixé à l'avance. Il n'y a aucune promesse divine affirmant qu'un salut global de l'humanité, avec les pertes nécessaires, est à venir. L'histoire, pour la majorité des Grecs anciens, est totalement ouverte et imprévisible. Elle se déroule au jour le jour et on ne sait pas comment ça finira. Chaque jour est différent du précédent, selon ce que Zeus a décidé d'y mettre. Le vieux poète Grognon, Archiloque, un peu plus récent qu'Homère, le rappelle, sans doute pour se consoler après une mauvaise passe.
Et chez les humains, au Glaucos, fils de Leptine, le cœur est pareil au jour que Zeus fait venir. et leurs pensées sont pareilles aux actions où ils se sont engagés.
L'être humain, selon ce poète Archiloque, vit au jour le jour, en fonction de ce qu'il entreprend. Il ne peut pas voir plus loin. S'il est raisonnable, il peut comprendre que la vie, ça va, ça vient. Rien n'est définitif. Cela ne veut pas dire qu'elle est n'importe quoi, qu'elle n'a pas de forme. Comme une musique, elle est un rythme où alternent des fortunes, des conditions opposées. Archiloque, encore lui, s'adresse à nouveau à son cœur, ou plutôt au souffle qui l'anime, qui en lui insuffle de l'énergie, le thumos, pour qu'il apprenne à vivre en accord avec ce rythme.
Souffle, ô mon souffle, agité de chagrin sans espoir, redresse-toi, défends-toi contre les malveillants, lance ta poitrine contre eux, tiens-toi debout devant les pièges de l'ennemi sans vaciller, et ne fête pas tes victoires en te donnant en spectacle. Vaincu, ne t'écroule pas dans ta maison pour gémir. Réjouis-toi de tes joies, fâche-toi contre tes malheurs, mais pas trop. Connais le rythme qui tient les humains.
La vie humaine est rythme, perpétuel changement, perpétuelle alternance. Elle est une combinatoire imprévisible de situations contraires, toujours les mêmes, qui se répètent. On ne peut pas dire de quelqu'un, soi-même ou un autre, qu'il a une vie heureuse avant que ne tombe le dernier moment qui peut tout renverser.
On n'attribuera le bonheur à personne avant qu'il n'ait franchi la borne de la vie sans avoir souffert.
On comprend que dans ces conditions, on ait tellement besoin de devins, porte-parole des dieux. Les dieux, au moins, ces êtres éternels et bienheureux, ne vivent pas ces alternances, ce rythme incessant jusqu'à la mort. Là où ils sont préservés. Ils peuvent avoir une perception d'ensemble du temps vécu, même si ce n'est pas le leur. Le temps ne les use pas, mais ils sont très informés de ce que le temps peut apporter comme surprise, comme déception. Ils sont au courant de tout ce qui peut arriver aux mortels, puisqu'ils passent leur temps à regarder les humains vivre, naître et mourir. Le temps est pour eux un objet de connaissance, et non le cadre opaque de leur vie. S'ils le veulent, si on les interroge correctement, dans les formes qu'ils ont fixées, ils peuvent dévoiler des secrets du passé ou les formes que peut prendre le futur. Face à un mortel qui les interroge, ils peuvent voir l'ensemble de son destin, et ils le disent, plus ou moins clairement.
Toi qui connais l'ombre et la lumière, les mystères de l'homme et les secrets des dieux, Tirésias, tu sais bien que tu sois aveugle, le fléau qui nous frappe. Toi seul peux nous défendre contre lui et sauver la cité. Consulte le vol des oiseaux ou tout autre moyen, mais aide-nous. Notre vie est entre tes mains.
Terrible est le savoir quand ce savoir est inutile. Mieux eût valu ne pas venir.
Mais que veux-tu dire? Pourquoi regrettes-tu d'être venu?
Laisse-moi repartir. Cela vaut mieux pour tous les deux, crois-moi.
Que dis-tu? Si tu sais quelque chose, ne nous fuis pas. Révèle-nous la vérité.
Ne m'oblige pas à provoquer mon désastre et le tien.
Les dieux immortels sont hors du temps, bien fixés dans leur éternité. Ils savent tout, ou presque. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ces dieux, ils ont bien dû naître un jour. Il a fallu qu'ils aient des parents, un lieu de naissance, et il a fallu les former. On ne devient pas dieu tout de suite, même si les progrès dans l'apprentissage sont étonnamment rapides pour les jeunes dieux. Chaque dieu a droit à une enfance, à des épreuves qui vont prouver qu'il est digne d'être un dieu. Avant qu'Apollon, le dieu majeur des oracles, ne devienne Apollon, du temps a passé, des événements ont eu lieu. Une fois installé dans son pouvoir de révélation à Delphes, Apollon sait tout du passé, du présent et de l'avenir, parce que c'est son père Zeus qui l'inspire, et que l'esprit de Zeus, esprit infaillible, invincible, contient en lui toute l'histoire humaine et divine. Mais avant l'installation d'Apollon à Delphes, cela n'a pas toujours été de tout repos. Il y a des histoires qui disent même que ça a été très violent, sanglant. Apollon, pour s'établir, a dû se battre contre un immense serpent qui ravageait la région. Un serpent qui était lui-même un prophète. Comme toujours pour les mythes, il y a des avis divergents. Selon d'autres raconteurs, nettement moins nombreux, ça a été pacifique. Tout se serait fait en douceur. Mais dans toutes les versions, Apollon n'a pas été le premier dieu à faire des prophéties à Delphes. La toute première divinité à le faire a été Gaïa, la déesse Terre. Apollon n'est arrivé que longtemps après. Les poètes se sont arrachés les cheveux pour donner leur avis sur l'histoire d'Apollon et de Delphes. L'un de ces poètes, Eschyle, le poète tragique du 5e siècle avant Jésus-Christ, imagine une histoire très tranquille pour l'oracle de Delphes. La maîtrise de l'oracle serait passée en toute douceur de la première prophétesse Gaïa, la déesse Terre, au jeune dieu Apollon en plusieurs étapes. Eschyle fait raconter cette histoire exceptionnellement paisible par la prêtresse d'Apollon elle-même, la Pythie. Un matin, elle vient prendre son travail comme d'habitude dans le temple du dieu. Elle prononce sa prière quotidienne du matin. Tout est tranquille dans son récit.
Terre, la première prophétesse, c'est elle en tout premier que ma prière honore parmi les dieux. À sa suite Thémis, qui deuxième après sa mère, siégea d'après l'histoire dans le palais de l'oracle. Puis sans violence et d'un commun accord, vint s'y asseoir la troisième, Phoïbé, une autre titane fille de la terre souterraine. Et c'est elle qui le donna en cadeau de naissance à Phoïbos, dont le surnom dérive de Phoïbé.
Selon ce mythe, Terre, la déesse Gaïa, déesse originelle, l'origine féconde, foisonnante, qui fait naître une foule d'êtres, a été la première à dire l'avenir à Delphes. Origine de tout ou presque, elle sait tout, c'est normal. Par sa fécondité, elle a ouvert le temps. Puis, pour une raison qui n'est pas dite, Gaïa cède l'oracle à sa fille Thémis, déesse de l'ordre des choses, de la règle et du devenir. Après la profusion issue de l'origine ouverte, illimitée qu'est Gaïa, vient l'ordre avec Thémis, dont le nom veut dire « ce qui est posé ». Ce sera l'un des noms du droit, de la justice. Thémis transmet l'oracle à une sœur, une autre fille de Gaïa, qui s'appelle Phoïbé, c'est-à-dire la lumineuse, l'éclatante. Elle a en elle la lumière de la révélation de la vérité. Cette Phoïbé va livrer l'oracle à son quasi-homonyme, Phoïbos, c'est-à-dire au fils de Zeus qu'est Apollon, appelé aussi Phoïbos, Phébus, le lumineux. Aucune lutte, aucune guerre dans cette transmission entre générations, alors que les mythes habituels parlent de violences féroces et de guerres longues entre les générations divines. Si l'oracle dit la vérité, cette vérité ne peut qu'être la même, quels que soient les dieux qui exercent le pouvoir. L'arrivée d'Apollon à Delphes prend dans ce mythe une allure politique. Apollon passe par Athènes, la terre d'Athéna Pallas, où vivent des humains nés de la semence du dieu de la technique, Héphaïstos, semence qui a fécondé la terre athénienne. Le pauvre, il voulait en fait féconder Athéna, mais sa semence a tourné court et s'écrasa par terre. C'est bon pour les Athéniens, puisqu'ils seraient nés de cette drôle de fécondation involontaire. Apollon et les Athéniens civilisent dans leur voyage des terres sauvages et sont accueillis avec honneur par le roi de Delphes. Le culte peut s'installer. On dit bien qu'Apollon et les Athéniens ont dû, entre Athènes et Delphes, affronter un monde brut, non civilisé. Mais rien n'est dit d'un combat contre un serpent. La Pythie continue son récit.
Ayant abandonné Délos, ses eaux marécageuses, ses troupeaux de rochers aux échines tondues, il atteignit les rives de Pallas, accostables aux navires, et chemina vers cette terre et ses demeures du Parnasse. Frayant la route, domptant les terres encore indomptées, pompeusement, les fils d'Héphaïstos l'escortent et le vénèrent. Il arrive, et le peuple et Delphos, roi et pilote de ce pays, lui rendent les honneurs. Zeus lui emplit le cœur de la science des dieux. C'est de Zeus, c'est de son père, que l'oblique Apollon est le prophète. Tels sont les dieux qu'en prélude j'invoque.
Après l'île de Délos, où il est né, le dieu Apollon va donc d'une cité à une autre, Athènes, puis Delphes. Son oracle aura une grande valeur politique. Eschyle livre une interprétation un peu intello de l'histoire de Delphes. Il efface tout conflit, toute violence, car le langage, qui peut dire le vrai à tout moment, échapperait à la violence.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe. Expensive.
Pierre Judet de Lacombe parle d'un Apollon double, pur et souilleur, un enchanteur pourrissant.
Seigneur Apollon, eh bien écoute à ton tour. C'est toi qui de tout ceci est, je ne dis pas le complice, mais l'auteur même, et celui qui a tout fait.
Comment ? Sur ce point, je te donne la parole.
C'est ton oracle qui a fait que d'autres, il devient parricide.
Mon oracle, tu l'as dit, afin qu'un père fût vengé. Après ?
Alors toi-même, tu te présentes pour couvrir ce sang encore frais.
Et je mande qu'ici même il se présente pour recevoir purification.
Dans le mythe le plus répandu sur l'arrivée d'Apollon à Delphes, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le dieu doit affronter une bête terrifiante, un serpent qui occupait le lieu. Il y avait plusieurs manières de raconter cette histoire. Selon certains poètes, c'est tout jeune, encore bambin, qu'Apollon aurait remporté sa victoire contre le serpent. Sa mère, Leto, à la fois sœur et épouse momentanée de Zeus, aurait pris dans ses bras son fils Phoibos aux cheveux d'or, juste après sa naissance sur l'île de Délos, et elle l'aurait porté jusqu'à Delphes, jusqu'au mont Parnasse, où le tout jeune homme aurait fait preuve de son habileté très précoce avec son arc. C'est le mythe qui est chanté dans une tragédie du poète Euripide.
La mère emporta son fils loin de l'île montagneuse, après avoir quitté l'illustre lieu de son accouchement aux eaux abondantes pour le sommet du Parnasse, où dansent les bacchantes en l'honneur de Dionysos, là où un serpent au dos tacheté, aux yeux rouges, comme recouvert d'une armure d'airain par l'ombre du laurier au feuillage touffu, un monstre gigantesque né de la terre, gardait l'oracle chtonien. Encore tout nouveau-né, encore bondissant dans les bras de ta mère, tu le tuas. Ô Phoibos, et tu l'emportas par tes oracles divins. Tu sièges sur un trépied d'or, trône qui ne ment jamais, dispensant aux mortels tes prédictions du fond de ton sanctuaire, tout près de la fontaine de Castalie, dans ton temple au centre de la terre.
Selon un poème qui a été attribué par les anciens à Homère, mais qui est plus tardif, du 6e siècle avant notre ère, Apollon aurait pris son temps avant d'aller supprimer le serpent. Il a fait son apprentissage. Il est allé dans l'Olympe se faire reconnaître par les autres dieux. Et il a eu le temps de leur faire peur tant il paraissait imposant avec son arc. Puis, il a erré à la recherche d'un lieu pour établir un sanctuaire et s'est retrouvé au pied du mont Parnasse. Il commence à poser les fondations de son temple. Ce temple, dans un lieu sauvage qu'on ne fréquente pas d'habitude, doit attirer des pèlerins venus de partout.
Ici, je pense construire un temple très beau, un oracle pour les humains. Ici même, ils conduiront des hécatombes parfaites, tous ceux qui tiennent le gras Péloponnèse, ou qui tiennent l'Europe, ou les îles cernées de flots qui viendront m'interroger. À eux, je dirai ma décision infaillible, à tous, par mes prophéties, dans ce temple opulent.
Apollon voulait un lieu riche, mais sauvage, inhabituel pour les mortels. Ceux qui l'interrogeront devront quitter leur monde normal et se déplacer jusqu'à cette montagne sauvage. Le lieu sera riche non pas par lui-même, mais par ce que les humains venus consulter le dieu apporteront comme offrande. Sauvage, le lieu l'était. Juste à côté vivait un monstre terrifiant, un serpent qui était un désastre pour tout le monde. Il vivait près d'une source pourtant pure et purificatrice, la source Castalie.
Tout près, il y a le flot splendide de la source où le Seigneur, fils de Zeus, avec son arc victorieux, tua le serpent femelle. Bête très bien nourrie, immense, prodige sauvage, qui fit tant de malheurs sur terre chez les humains. Malheur des hommes eux-mêmes et de leurs brebis aux longues pattes, car elle était un fléau sanguinaire.
Apollon, là-bas, avec ses flèches.
Elle faisait mille malheurs dans les glorieuses tribus des hommes. Qui la rencontrait, le jour de son destin l'emportait. Jusqu'au jour où Apollon, le dieu qui œuvre de loin, la frappa d'une flèche victorieuse. Déchirée de douleur insupportable, elle était à terre, haletante, cerclant tout le lieu dans ses boucles. Un cri prodigieux, infini, surgit. Dans la forêt, Là et là, elle tournait en ronde serrée, puis elle abandonna sa force dans un souffle de sang.
Apollon exulte, il a supprimé le monstre, mais cet acte violent ne peut pas s'effacer. Le lieu sera à jamais marqué par cette mort, et pire que cela, par la pourriture que le soleil, cet allié d'Apollon, Phoibos, va faire prospérer sur le cadavre. Pourrir, se putréfier, en grec cela se dit putestai. Le lieu du meurtre, qui est aussi le lieu sacré où le culte d'Apollon va s'établir, s'appellera Pytho, lieu de la putréfaction. Et Apollon portera le nom de Pythien, le dieu de la pourriture.
Apollon triompha.
Pourri.
Putéo.
Là, maintenant, sur la terre qui nourrit d'abondance, tu ne seras pas un désastre de malheur chez les vivants, pour les mortels qui mangent les fruits de la terre si généreuse et qui, ici même, conduiront des hécatombes parfaites. De la mort pleine de douleur, Typhée ne te protégera pas, ni la chimère au nom mauvais, mais te feront pourrir ici, la terre noire et soleil Hyperion l'éblouissant.
C'était son triomphe. L'ombre couvrit les deux yeux de la bête. La force sacrée du soleil la putréfia entièrement à l'endroit même, qui reçut le nom de Pytho. Et le Seigneur Dieu fut appelé du nom de Pythien, car à cet endroit, la force acérée du soleil a fait pourrir le monstre.
Les jeux de mots peuvent s'enchaîner. En grec, la forme putestai, pourrir, peut aussi prendre un tout autre sens. Si on la rattache au verbe puntanestai, qui signifie savoir, cette histoire établit un lien fort entre le serpent Python, Python, la pourriture et la connaissance. Tout est résumé, repris dans le nom du lieu Pytho, le nom du lieu où Apollon fait rayonner son lumineux savoir. La pourriture est essentielle dans ce lieu. Le serpent, qui est une bête terrienne, intimement liée à la déesse Terre, à Gaïa, la première prophétesse de Delphes, ne peut pas être simplement remplacé, éliminé. Il agit toujours à travers son corps qui pourrit au soleil. Le vrai savoir passe par cette traversée de la chair morte, décomposée, par la permanence d'un vieux passé infect, qui rappelle une violence, qui fait ressurgir tout ce que l'on cache d'habitude. Le rituel en vivifiera le souvenir. Apollon est fortement lié à la pourriture. Il est un devin et aussi un médecin qui a en charge de purifier les êtres qui lui demandent secours. Purificateur, il est ambigu. Il peut aussi bien répandre la pourriture que la supprimer. Il peut aussi bien déclencher une peste que l'arrêter. Le dieu éclatant, beau et solaire et lumineux grâce à sa familiarité avec la saleté. Apollon devin surplombe le temps. Il en connaît les tenants et les aboutissants, mais cela lui est possible parce qu'il s'est implanté dans un lieu où l'ancien, le serpent en décomposition, est ineffaçable et ne cesse de se rappeler au présent.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La prise de son a été assurée par Loïc Frapsos et le mixage par Gaspard Laloum. Bonne journée sur France Inter.